marche du monde.
Viva! El año de la solidaridad. Viva la solidaridad y la hermandad entre todos los pueblos. Viva la lucha de liberación de los pueblos. Patria o muerte, excelente.
Ils sont venus d'Afrique, mais aussi d'Asie et de toute l'Amérique latine pour participer à la grande fête de la solidarité cubaine à l'invitation de Fidel Castro. Nous sommes en janvier 1966 et tous les révolutionnaires de la planète sont réunis à La Havane pour participer à la première conférence tricontinentale.
Esta conferencia aquí en Cuba.
Cette conférence, ici, à Cuba,
territoire
libre d'Amérique, premier pays socialiste de l'hémisphère occidental, est en réalité une grande promesse, un grand espoir pour tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme.
Amilcar Cabral du PIGC, le parti africain de l'indépendance de Guinée et du Cap-Vert, est l'une des figures de cette conférence de La Havane dont les Vietnamiens, en guerre contre les Américains, sont les héros. La conférence des trois continents marque l'actualité mondiale de ces années 60, une épopée anti-impérialiste dont l'intellectuel français Régis Debray est le grand témoin sur RFI, car la tricontinentale est racontée par son ami l'écrivain Roger Faligot dans un livre éponyme publié à la Découverte et sous-titré « Quand Che Guevara, Ben Barka, Cabral, Castro et Ho Chi Minh préparaient la révolution mondiale ».
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour, Roger Faligot.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce livre « Tricontinental », une enquête historique rédigée comme un roman policier où l'on retrouve Cuba et Castro, mais aussi les Américains et la CIA pour cette conférence anti-impérialiste qui se déroule à La Havane et qui réunit les représentants de 82 pays. Nous sommes 7 ans après la révolution cubaine et la naissance de la République de Cuba. Quel est l'enjeu à ce moment-là pour Fidel Castro ?
Après cette enquête, je suis convaincu que l'enjeu, c'était de réussir à créer un équilibre qui faisait qu'il ne tombait pas sous la tutelle des Chinois, des Soviétiques. Évidemment, de faire face au blocus américain, ce qui était complexe. Également, vous l'avez dit, de soutenir ces Vietnamiens qui étaient en guerre et qui étaient dans une situation terrible. Et enfin, d'apparaître peut-être comme le leader d'un tiers-monde militant qui émerge sur les trois continents, Afrique, Asie, Amérique latine. On vient d'entendre la voix de Cabral, par exemple. Bah lui, Cabral, est en train d'organiser la guérilla en Guinée-Bissau. Il est même en train de gagner la guerre, singulièrement, ce qui n'est pas le cas de tous ces révolutionnaires qui sont venus là, à La Havane.
Régis Debray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, à l'époque, professeur de philosophie. Vous avez 26 ans et vous êtes l'invité personnel de Fidel Castro. Il vous invite parce que vous êtes l'auteur d'un article publié dans la revue Les Temps Modernes et intitulé « Le castrisme ou la longue marche de l'Amérique latine ». Et cet article, c'est tout d'abord le Che qui en a pris connaissance à Alger, bien avant la tricontinentale. Régis Debray, pourquoi étiez-vous à Alger et dans quelles circonstances Ernesto Guevara a-t-il pris connaissance de votre analyse de la révolution cubaine ?
Oui, c'est un article publié dans les Temps Modernes de janvier 1965 que j'avais fait suite à un périple dans le continent latino-américain d'à peu près 16 mois, un an et demi, entre 63 et 64, auprès des groupes insurgés ou clandestins ou préparant l'insurrection. Donc j'avais fait une sorte de petite synthèse, si j'ose dire, opérationnelle, des difficultés rencontrées par la lutte. J'avais intitulé ça, ou plutôt Claude Lanzmann avait intitulé ça « La longue marche de l'Amérique latine », parce que l'atmosphère était un peu chinoise à l'époque, et même si mon article était plutôt une tentative de ne pas être pro-chinois tout en étant d'extrême gauche, et cet article est tombé dans les mains d'un ami vénézuélien, Osvaldo Barreto, qui était à Alger, qui l'a transmis au Che, qui lisait le français, lequel Guevara arrivait à à La Havane, l'a fait traduire pour Fidel Castro. Fidel Castro y a trouvé beaucoup de bon sens, en tout cas d'informations et de réflexions utiles, et il a donc invité l'auteur totalement inconnu de cette petite synthèse.
Roger Faligo, Alger, c'est important pour comprendre ce qui se passe à Cuba. Vous attribuez la paternité de l'idée de la conférence tricontinentale à Mehdi Ben Barka, qui lui est marocain. Il se trouve à Alger parce qu'il venait d'être condamné à mort par contumace au Maroc, accusé de complot contre la monarchie. Ben Barka, mais aussi Ben Bella, participent tous les deux à la genèse de cette tricontinentale.
Oui, j'estime que c'est comme les trois mousquetaires, au fond. Il y a Ahmed Ben Bella, donc, qui est le président de la jeune république algérienne qui est tout nouvellement indépendante. Mehdi Ben Barka, très justement. Che Guevara, qui depuis longtemps a commencé à réfléchir à tout ça. Et puis le quatrième, c'est Fidel Castro, quand même, qui voit bien que si on doit organiser tout ça, ça serait beaucoup mieux. C'est-à-dire, jusque-là, on n'avait qu'un mouvement de non-alignés qui touchait l'Asie et l'Afrique. Et là, il fallait faire une extension, en quelque sorte, vers l'Amérique latine. Et ça serait parfait si tout cela s'organisait début 66 à La Havane.
Vous l'avez cité donc, Che Guevara, qui dans le monde entier dénonce la politique américaine, tout comme ici à Genève, en 1964, lors de la conférence mondiale sur le commerce et le développement.
Après avoir déploré l'absence de la Chine communiste et la présence à la conférence des représentants fascistes de l'Afrique du Sud, M. Guevara a prononcé une violente diatribe contre la politique américaine. Il a dénoncé aussi avec violence la soumission des organisations internationales aux capitalistes et aux impérialistes pour perpétuer le sous-développement dans les pays pauvres. Puis il a demandé la création d'une nouvelle organisation mondiale du commerce qui se substituerait aux organismes désuets actuels. À l'issue de ce discours d'une heure et quart, M. Guevara a bien voulu répondre en français à la question que je lui posais sur les chances de succès que lui et son gouvernement accordaient à la conférence. Écoutez-le.
Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence. C'est l'union de tous les pays dits en développement et c'est la compréhension s'ils sont capables, des grands pays développés capitalistes, de comprendre la situation actuelle et quelle doit être son vraie position pour chercher une forme de relation qui permette un développement pacifique. Parce que dans ce moment, on doit se définir. Or, on peut donner quelques avantages aux pays sous-développés pour se développer, ou la situation internationale, chaque jour, deviendra de plus en plus difficile et peut-être des grandes conventions sociales seront dans tout le pays sous-développés.
Mais ni Che Guevara, ni Ben Barka, ni Ben Bella ne seront à La Havane en 1966.
Tout s'est passé très très vite. Boumediene envoie ses chars dans Alger. Boumediene fait arrêter Ben Bella. Du trio Ben Bella, Boumediene, Bouteflika, il ne reste que les deux derniers. Boumediene, Bouteflika se sont unis pour liquider le premier.
Ben Bella, dans sa dernière interview accordée à Hervé Bourges, définit sa révolution.
Moi, je voulais une révolution complète. Je voulais enlever les terres aux colons. Pour moi, les colons, c'était l'ennemi.
Et vous pensiez que ce n'était pas possible avec le GPRA de l'époque ?
Non, c'est elle qui n'est pas révolutionnaire. C'était finalement deux visions pas très, très semblables. Moi, je voulais une vraie révolution.
En pleine rue, en plein Paris, en plein jour, Mehdi Ben Barka est enlevé ici, face à la brasserie Lip. Il est midi et demi, le 29 octobre 1965. Ben Barka est l'opposant numéro un du roi du Maroc, Hassan II. Il est emmené par un groupe bien étrange. Deux policiers français, quatre voyous, un agent des services secrets, le SDEC, et des barbouzes marocaines. La destination, Fontenay-le-Vicomte, dans l'Essonne, précisément cette maison. Ben Barkaï est certainement frappé, torturé, puis tué, mais aucune certitude. Le dossier est classé secret défense pendant 39 ans. Surprise, à son ouverture, il ne révèle rien. Pourtant, à l'époque, la France est éclaboussée au plus haut niveau. Le général de Gaulle doit contre-attaquer.
Ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne.
Roger Faligou, à la lumière de votre enquête, que pouvez-vous répondre à cette déclaration du général de Gaulle au sujet de l'enlèvement de Ben Barka, enlèvement sur lequel vous revenez dans votre livre « Tricontinental ».
Je dois dire, on comprend bien que le général parle à ce moment-là de l'implication de certains éléments, particulièrement véreux de la police française et de trois éléments des services secrets français. Mais par contre, nous savons aujourd'hui que le lendemain de la date à laquelle il a été kidnappé, normalement, il devait rencontrer justement le général de Gaulle à l'Élysée. Ce qui, singulièrement, c'était un des aspects de mon enquête, montre que le général de Gaulle s'intéressait beaucoup à ce qui se passait à la Tricontinentale, c'est-à-dire est-ce qu'il était possible qu'il y ait une nouvelle voie qui soit ni du côté soviétique, ni chinois, ni américain, et qui regroupe en quelque sorte des pays non alignés ou des pays qui veulent véritablement faire face à ces camps. Alors simplement, moi je ne donne pas d'éléments nouveaux sur l'enlèvement proprement dit. Par contre, en amont, je pense pouvoir décrire, grâce aux nombreux témoignages que j'ai réunis, le rôle d'un Ben Barka, grand diplomate international, songer qu'il va aller en Chine dire aux Chinois, la Tricontinentale va avoir lieu à La Havane, nous allons demander aux Soviétiques de venir, et vous aussi, vous allez venir. Et ensuite, il va aller voir les Soviétiques et faire la même chose. Et il va réussir. C'est l'une des rares fois, sinon la seule, pendant la guerre froide, où on a les deux parties chinois et soviétiques là-bas. Donc moi, je raconte tout ça. Par contre, ce dont je suis sûr aussi, puisque ce livre, La Tricontinentale, parle aussi de la façon dont les Américains vont faire face à ce projet qui leur semble très dangereux. Ils vont créer un comité spécial, le comité 303, avec le sous-tutelle du secrétaire national de la sécurité, et ils vont liquider, tuer des gens ou bien les marginaliser de telle sorte qu'ils puissent pas organiser cette conférence.
Vous-même, Régis Debray, est-ce que vous êtes inquiété dans ces mois qui précèdent cette réunion tricontinentale à La Havane qui, je le rappelle, réunit des délégués d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine ?
Non, pas du tout, puisque je ne faisais pas partie des organisateurs. J'ai été un invité de dernière minute, et donc les Américains n'avaient aucun motif de surveiller un petit professeur de philosophie à Nancy qui avait vagabondé en Amérique latine. Non, il est probable qu'ils avaient détecté sans doute la présence d'un jeune Français dans différents maquis, mais non, je n'étais pas du tout une cible, je le suis devenu après. Mais je tiens à dire que moi j'ai découvert beaucoup de choses dans le livre de Faligou, figurez-vous. C'est extraordinaire à quel point, peut-être ma mémoire est-elle défaillante, mais j'ai compris toute l'ampleur du projet et également tous les détails d'organisation de la Tricontinentale, que j'ai vécu comme un grand moment lyrique, je dirais. Malraux aurait parlé de l'illusion lyrique, mais elle était très pragmatique, car au début de l'émission, j'ai entendu le mot de la grande fête. C'était plutôt un comité préparatoire d'une série de soulèvements. Je n'ai eu connaissance que de la partie latino-américaine, car très vite, Fidel m'a associé à différentes réunions conspiratives. J'ignorais un peu tout le versant africain que j'ai découvert en lisant Faligou, et ainsi que le versant asiatique. Au fond, ce qu'on a appelé la OLAS ensuite, c'est-à-dire l'Organisation de solidarité latino-américaine spécifiquement, qui s'est réunie en 67, était déjà là en préparation. Donc, ça a été le moment, où, si vous voulez, où la troisième voie entre capitalisme et communisme bureaucratique, où la troisième voie était le plus proche de trouver un débouché concret. Troisième voie, troisième force, tiers-monde, enfin le chiffre 3. Disons que les trois continents faisaient la nique aux deux grands. Ce qui était quelque chose de frondeur, d'hérétique à l'époque, et que le mouvement communiste institutionnel installé voyait d'un mauvais œil, n'est-ce pas ? nous étions un peu des moutons noirs ou un peu trop rouges pour à la fois la social-démocratie, bien sûr, mais également beaucoup de partis communistes. Donc c'était une dissidence fervente, pragmatique, peut-être entourée de certaines illusions, dont la principale, elle est classique. C'est que toute révolution cherche à se répéter et à projeter ses méthodes et son esprit sur d'autres contrées, sur d'autres pays qui ont d'autres histoires. Mais ça, c'est ce qui est arrivé aussi bien à la Révolution française qu'à la Révolution russe.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Pourquoi vous, Régis Debray, vous choisissez d'aller à Alger plutôt qu'à Pékin ou à Moscou avant d'aller à cette tricontinentale à Cuba? Pourquoi Alger?
Non, moi je suis allé à Alger, mais pas du tout dans ce contexte-là. Je suis allé à Alger comme j'étais allé à Tunis au moment de l'indépendance de l'Alger, mais je n'étais pas en contact avec les autorités algériennes d'Algérie. J'ai eu des contacts épisodiques avec des militants algériens en France. Non, la question est de savoir, non, pourquoi je vais à Cuba en 61, participer à la campagne d'alphabétisation, parce qu'il y avait eu la victoire sur les Américains à la baie des Cochons, parce qu'il y avait un fantastique appel, je dirais, précisément à rompre avec le modèle soviétique, si vous voulez, qui nous semblait déjà à bout de souffle. Et il y avait une aura extraordinaire du personnage de Fidel sur les étudiants français à l'époque, puisque Bernard Kouchner et moi avions été à l'ambassade de Cuba à Paris en avril 61 pour nous inscrire dans ce qu'on voulait ou croyait qu'allaient être des brigades internationales. Donc il faut recontextualiser cela dans la mobilisation de ce qu'était l'Union des étudiants communistes et beaucoup de mouvements qui ne s'appelaient pas encore gauchistes, qui n'avaient rien encore de 68 art, ce serait un anachronisme, mais qui étaient à la gauche du Parti communiste.
Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'Union soviétique, ça va être un des points importants dans cette tricontinentale, cet affrontement entre Chinois et Soviétiques. On est dans un moment où l'Union soviétique aborde une certaine forme de réforme. D'ailleurs, le délégué soviétique, Kouguénin, va marquer cette ère des réformes.
Il faut savoir que là, c'est les archives qu'on a aujourd'hui, qu'on n'aurait pas pu trouver il y a 10 ans. Les témoignages montrent que les soviétiques étaient hostiles à la création de la tricontinentale. Ils envoient même Semi Chasny, qui est le chef du KGB, des services secrets soviétiques, pour dissuader, en quelque sorte, dire au frère Castro, écoutez, ça serait mieux si vous faisiez autre chose. De la même façon, ils vont envoyer Marcus Wolf, le responsable des services extérieurs de la RDA, pour savoir un peu ce que vont faire les Cubains et leur dire ça serait mieux de ne pas faire ça. Et par parenthèse, ils veulent aussi savoir où est passé Che Guevara. Parce que ça, c'est leur préoccupation aussi importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que déjà, en quelque sorte, la tricontinentale a amorcé une sorte de première avant-garde militaire, et on sait maintenant qu'il était évidemment au Congo pendant cette affaire.
Avec Régis Debray et Roger Faligaud, nous nous envolons pour la Havane, histoire de rejoindre la conférence tricontinentale. On se retrouve à Cuba, juste après les infos, sur RFI.
Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde sur RFI, nous sommes à La Havane. En janvier 66, nous fêtons la nouvelle année, l'anniversaire de la Révolution, elle a 7 ans. Mais surtout, nous nous apprêtons avec Régis Debray à vivre, avec des représentants anti-impérialistes du monde entier, un véritable marathon intellectuel, la conférence des trois continents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, la fameuse tricontinentale. Ahmad Dansoko s'en souvient.
À partir de 63, nous avons envoyé des gens se former à Cuba, en grand nombre. J'ai voyagé à la tricontinentale avec Debray. J'étais souvent avec Josephine Becker. Nous étions aussi délégués à une conférence révolutionnaire. Conférence révolutionnaire. On était tout le temps ensemble. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne mangeais pas des cuisses de grenouille. Donc on a formé des gens pour venir faire la guerre de guérilla. C'était pas aussi farfelu que ça, parce que les Cubains étaient impliqués, les Algériens, Bendela, étaient impliqués, Nkrumah était impliqué, et Modibo était impliqué. C'était une opération d'envergure.
Ahmad Dansoko, aujourd'hui ministre sénégalais, à l'époque membre du PIT, le Parti indépendant du travail. Il se souvient parfaitement de votre présence, Régis Debray à La Havane, et aussi de celle de Joséphine Becker. Je vois votre sourire et vos yeux s'allumer.
Oui, à vrai dire, effectivement, j'ai croisé Joséphine Becker. J'ignorais à quel point c'était une militante. J'ignorais le lieutenant de la France libre qu'elle avait été. Et j'ignorais, ou je devinais, qu'elle serait bientôt lieutenant de l'armée rebelle cubaine. Ce que Faligo m'a appris parce qu'il la connaît mieux que moi.
Régis Faligo, comment peut-on du coup se représenter aujourd'hui cette tricontinentale? Il y a d'une part les mouvements de libération, les partis clandestins, des personnalités invitées par Fidel Castro, comme Régis Debray, comme Joséphine Becker, et puis aussi ces deux grands pays qui se disputent le leadership. Plantez-nous le décor.
Écoutez, il y a quand même une fête, moi je le sens comme ça, parce que dès la fin décembre, il va y avoir la fin de l'année, il va y avoir le 2 janvier, la fête de la Révolution. Alors là, il y a un défilé militaire
sur
la place de la Révolution. Et alors, c'est amusant parce que ça dépend des pays. Par exemple, les Africains, effectivement, que j'ai interviewé, se souviennent que c'était extraordinaire. Ils étaient dans l'hôtel Habana Libre, qui au fond est le personnage central du livre. C'est ce grand hôtel, et Régis Debray était au 25e étage. Donc là, vraiment, avec d'ailleurs le lieutenant de Mandela, Robert Trechat. Il y avait également Joséphine Becker qui représentait encore autre chose. Et puis,
qu'est-ce qu'elle représentait, justement?
Ah, écoutez, elle était l'invitée personnelle de Fidel Castro, au même titre que Régis Debray, mais pour une autre raison, elle avait déjà aidé, du temps de Batista, le mouvement d'opposition clandestin. Elle avait, d'ailleurs, plusieurs de ses retournées de champ, elle avait donné un peu d'argent au parti clandestin de Fidel Castro. Elle avait été très mal traitée par Batista. Elle était déjà militante des droits des Afro-Américains et Afro-Américains au sens des deux Amériques. N'oubliez pas qu'elle a créé également l'association des écrivains et artistes africains avec des gens comme Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant, enfin, beaucoup de personnages qui aujourd'hui disent quelque chose à nos auditeurs, je pense. Donc voilà, c'était un personnage. Mais surtout, quand elle arrive à La Havane, et ça m'a été confirmé par des gens que j'interviewais qui étaient des services de sécurité cubains, elle arrive et elle dit, il faut absolument que je voie Fidel. Et ensuite, elle le voit, elle dit, voilà, il va y avoir une tentative d'assassinat contre toi pendant la conférence. Et songez que, selon ce qui m'a été dit, que j'ai pu recouper, il y a au moins 4 tentatives d'assassinat. Et il y a une tentative de tuer tous les délégués sur la vieille place de la cathédrale de La Havane, un soir de gala, un dîner de gala. Il y a Fidel avec les délégués vietnamiens. Il est souvent avec les Vietnamiens, je pense que Régis me confirmera ça.
Il acquiesce.
Oui, qui sont très importants dans cette conférence. Bon, et effectivement, il y a eu des tentatives. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des vraies tentatives par les services américains, par le conseiller national à la sécurité américaine, par le président Johnson, d'essayer de décapiter cette tricontinentale.
Alors, cette tricontinentale n'aurait peut-être pas existé si 10 ans plus tôt, le mouvement des pays non alignés ne s'était tenu, donc en Indonésie, en 1955, c'est la conférence de Bandung. Écoutez l'Indien Nehru, l'instigateur de cette conférence.
We say we are non-aligned. That is, we do not join any power bloc or military bloc, but we have views. And we think we can serve the cause of peace better by not joining up a power bloc and by having friendly relations with both sides.
Nous disons que nous sommes des non-alignés, c'est-à-dire que nous ne faisons partie d'aucun bloc militaire, ni d'aucune puissance. Et nous pensons que nous pouvons servir la cause de la paix bien mieux sans rejoindre une puissance et en ayant de bonnes relations avec les deux blocs.
La réaction du Français Edgar Faure, à l'époque président du Conseil.
J'ai considéré comme extrêmement choquant et inadmissible que la conférence de Bandung évoque dans des termes vraiment inacceptables par la France la situation de l'Algérie, qui fait partie de la France, qui constitue trois départements français dont la population a des droits civiques et des droits pratiques que vous connaissez. Je considère que, à ce point de vue, l'attitude adoptée constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies qui interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des pays étrangers. Je le dis sans acrimonie, sans hostilité à l'égard des pays qui ont pris cette position, car je pense qu'il s'agit là d'une erreur et qu'il n'y sera pas persévéré.
Il n'est pas content, Edgar Faure, en 1955, mais en 1966, l'Algérie a gagné son indépendance par les armes. Le FLN est d'ailleurs présent à la Havane, mais aussi les Vietnamiens, on l'a souligné plusieurs fois. Écoutez Ho Chi Minh, le leader de la révolution vietnamienne, c'est un document de 1946.
Pour commencer, en mon nom personnel et au nom de mon peuple vietnamien, j'adresse un salut fraternel au peuple français. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. C'est un grand peuple, sensible et généreux, qui, le premier, a levé l'étendard des nobles principes de liberté, d'égalité et de fraternité.
La voix d'Ho Chi Minh, en français, dans la marche du monde. Régis Debray, les Vietnamiens sont les héros de la tricontinentale. Quels souvenirs en gardez-vous ?
C'est la référence, évidemment, pour tout le monde. L'idée même, comme dira Le Che bientôt, faire deux ou trois Vietnam. Évidemment, le film annonce n'a pas été suivi de la superproduction annoncée. Dans les fêtes, malgré beaucoup de tentatives néanmoins dans ce sens, mais le Vietnam fixe à l'époque, après la guerre d'Algérie, tous les jeunes Français progressistes vibrent pour le Vietnam.
Et à Cuba, les délégués vibrent aussi pour le Vietnam.
Écoutez, je ne les ai pas beaucoup fréquentés, je les voyais sur la tribune, mais je trouve très émouvant d'écouter Ho Chi Minh. Et c'est un peu crucifiant parce qu'au fond, tous ces gens qui combattaient l'État français étaient des francophiles malheureux. On se dit que la France a vraiment raté le coche, comme on dit.
Roger Faligot, les Vietnamiens sont un modèle, Régis Debray l'a souligné, un modèle de lutte armée, comme les Algériens, comme les Cubains. Mais la lutte armée, est-ce que c'est le seul moyen de vaincre l'impérialisme américain? Parce qu'on débat à la tricontinentale du comment développer la révolution.
Oui, effectivement, ce que disait Régis Debray, c'est que Le Che, qui n'est pas là, avant, il était au Congo, il est malade, hein, il était en Tanzanie pendant la conférence, il est en train de lire le mémoire de guerre du général de Gaulle. Après, il va partir donc en Bolivie, et là, il va écrire ce fameux appel à la tricontinentale qui sera relayé plus tard encore. Il faut créer deux, trois Vietnam. Mais c'était parce que l'idée, et c'est ça qui a fait peur aux Américains, c'était de dire, si jamais il y a des vrais foyers révolutionnaires qui nous empêchent, qui nous obligent à retirer des troupes au sol ou bien d'arrêter les bombardements sur Haïphong et sur Hanoï, et bien on est vraiment dans une situation critique. Mais en même temps, il faudra avouer que cette tricontinentale aura un effet positif, à mon avis, non pas de faire la révolution, mais là en tout cas pour aider les Vietnamiens à négocier en secret avec les Américains dès 68 à Paris. Et le général de Gaulle aura un rôle là-dedans aussi.
Et à la tricontinentale, une autre voix, une autre proposition s'élève aussi, une voie légale expérimentée au Chili en 70.
Compañeros, no son partos de todos los días en la historia. Y lo que estamos haciendo nosotros es una auténtica revolución, no solo porque lo que vivimos, lo vemos, lo sentimos, sino porque además...
Le peuple doit comprendre que la révolution ne naît pas tous les jours. Notre révolution est une vraie révolution. Elle n'est pas seulement verbale, on peut la voir tous les jours. D'ailleurs, le monde entier a les yeux tournés vers le Chili comme une petite lueur d'espoir pour des millions d'êtres humains à travers le monde. On ne peut pas tomber dans le scepticisme, ni dans la fatigue, ni dans le doute. On ne peut pas construire le socialisme dans une heure, dans un jour. ou dans un an. Personne ne doit retarder l'avance du processus révolutionnaire.
Nadie trata aquí. Nadie trata de tener la avalancha del proceso revolucionario.
Je veux être le premier président du premier gouvernement authentiquement populaire, national, démocratique et révolutionnaire dans l'histoire du Chili.
El primer presidente del primer gobierno auténticamente popular, nacional, democrático y revolucionario de la historia de Chile.
Salvador Allende sera le premier président socialiste démocratiquement élu en Amérique latine, président pendant 3 ans, avant de se suicider dans le palais de la Moneda lors du coup d'état de Pinochet en 73. Mais en 66 à La Havane, à Cuba, puisque Allende est là, et que vous êtes particulièrement attentif, Régis Debray, aux latino-américains, est-ce que la voix chilienne, la parole d'Allende séduit ?
Non, pas du tout. Allende apparaît alors comme un notable réformiste, enfin j'emploie des mots un peu stéréotypés, qui est sans doute très méritant, mais qui est vu comme un compagnon de route un peu distant, parce qu'il n'est pas partisan de la lutte armée, parce que le Chili a une tradition démocratique, parlementaire, et parce qu'il est l'expression de sa culture chilienne. C'est un radical, c'est un franc-maçon, nous dirions aujourd'hui c'est un homme de centre-gauche. C'est ensuite... D'abord sa mort, suicide peut-être, mais à la romaine, suicide offensif, si j'ose dire, pour ne pas donner aux militaires le plaisir d'une reddition. Sa mort l'a transfiguré. Sa mort a fait de lui ce qu'il est d'ailleurs et qu'il devrait rester dans l'histoire comme, je dirais, une figure héroïque du socialisme démocratique, tout simplement. Mais il était dans cette ambiguïté avec une grande sympathie. Pour le Che d'ailleurs lui a dédicacé son livre, si je me souviens bien, à Salvador, qui vise la même chose que nous, mais par d'autres méthodes, par d'autres voies, voilà. Mais Salvador Allende était un homme un peu déchiré, si vous voulez, entre les devoirs de sa place institutionnelle, président du Sénat, puis président de la République, et par ailleurs sa solidarité avec les mouvements de libération armée, dont s'occupait en particulier sa fille.
C'est donc la lutte armée qui est plutôt le modèle à suivre lors de cette tricontinentale à Cuba en janvier 66. Et en tout cas, pour Cabral, la lutte armée reste le dernier recours que l'on doit utiliser quand toutes les autres solutions ont échoué.
Nous avons commencé vers 1952 à Bissau à réclamer nos droits à l'autodétermination, mais par des moyens légaux, en cherchant de convaincre les autorités portugaises à comprendre notre situation. Alors, après 3 ans de tentatives de travail légal dans ce domaine, nous avons dû prendre la décision de créer notre parti clandestin à Bissau même, qui a été créé par des Guinéens et des Capverdiens. Et c'est en 1961, août, 3 août 61, que notre parti a proclamé le passage de l'action purement politique à l'action directe.
Almícar Cabral, Roger Faligol en français une fois de plus, qui explique les raisons et les différents moments de cette escalade vers la violence. C'est aussi une des figures marquantes de cette tricontinentale.
Oui, tous les témoins que j'ai pu interviewer me disaient, mais quand même, il y avait ce Cabral, alors pour le côté africain naturellement, et même international, parce qu'il a fait un discours tout à fait inattendu, très important, presque marginal, un peu dur vis-à-vis des soviétiques et même des chinois, et en disant nous devons penser avec notre cerveau, pas celui des autres. C'est dans son texte, c'est très important. De même, il dit des choses un peu étonnantes pour les autres Cubains. Il dit que la première chose importante pour des révolutionnaires, une fois qu'on a pris le pouvoir, c'est de savoir comment négocier avec l'opposition. Et la façon dont nous traitons les gens qui s'opposent à nous donne une indication du degré de démocratie, en quelque sorte, du régime socialiste que nous voulons mettre.
Oui, c'était le plus considéré des leaders à l'époque.
Régis Debray.
Il avait une sorte d'aura intellectuelle et morale, malgré la petite taille et du personnage et du pays, qui transcendait vraiment son pays d'origine. Et le fait qu'il parlait bien le français, l'espagnol, le portugais, lui donnait, avec le sens de la nuance, une grande culture. C'était un homme tout à fait exceptionnel.
Et si je peux juste rajouter une petite chose, n'oubliez pas qu'il ne représente pas que son pays, il est chargé de représenter à la fois l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc évidemment, il a plus de temps de parole également, ce qui n'est pas négligeable, mais du même coup, il est également la personne qui est en train de gagner la guerre de guérilla dans son pays, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de dirigeants africains, d'autres dirigeants. Donc, tous les éléments sont là, les ingrédients sont là pour faire d'Amilcar Cabral un personnage à la fois atypique et en même temps très emblématique de ce que serait, si ça marchait bien, la tricontinentale.
Sur la lutte armée, il faut se rappeler que Nelson Mandela dit lors de son procès la même chose. Donc il y a une concordance de vues. Le discours de Cabral et celui de Mandela. Quand on ne peut plus faire autrement, eh bien nous utilisons la violence, même si ce n'est pas notre souhait premier.
À notre peuple,
la proposition
que cette année, eu égard à l'événement qui se déroule dans notre pays, et en l'honneur des délégations qui nous font l'immense privilège de nous rendre visite et de se réunir sur cette terre qui a conquis sa liberté avec le sang de ses fils, qui s'est battu et qui s'est défendu et qui s'y battra encore pour pouvoir s'appeler Cuba. Premier pays socialiste et premier territoire libre d'Amérique, que cette année s'appelle l'année de la solidarité. Avec l'appui du peuple, que tous ceux qui sont d'accord avec ce nom lèvent la main.
Viva! El año de la solidaridad. Viva la solidaridad y la hermandad entre todos los pueblos. Viva la lucha de liberación de los pueblos. Patria o muerte, excelencia.
Fidel Castro reçoit à La Havane, à Cuba, en 1966, pour cette conférence tricontinentale sous le signe de la solidarité. Régis Debray, vous êtes présent à cette conférence. Nous sommes 7 ans après la révolution cubaine, après la naissance de la République cubaine. Et finalement, Fidel Castro va choisir son camp. C'est le camp communiste, c'est l'Union soviétique.
Oui, en désespoir de cause, si j'ose dire, et faute de mieux. Car le projet de Fidel Castro, d'abord était de s'opposer, de s'émanciper envers les États-Unis d'Amérique. Pour cela, il avait besoin d'un allié. Il trouve Khrouchtchev. Très vite, il se rend compte des limitations, à la fois en termes de solidarité, en termes de modèle de société de l'Union soviétique d'alors, et il veut créer quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est la tricontinentale, c'est l'idée que le Parti communiste ne doit pas être nécessairement à la tête des luttes de libération, que la lutte peut engendrer sa propre avant-garde. Bref, il a une vision très différente, avec toujours une vision un peu, je dirais, frondeuse à l'égard du grand frère soviétique.
Roger Faligo, donc, finalement, à l'issue de cette conférence, Fidel Castro prend ce leadership, les Chinois se retrouvent isolés, et malgré tout, les Soviétiques...
J'aime pas beaucoup qu'on dise les Chinois, les Soviétiques, etc. Songez que Hu Suetien, qui était le chef de la délégation chinoise, quand il va rentrer en mars 66 à Pékin, il va finir en prison. Parce que commence la révolution culturelle, on va lui reprocher de ne pas s'être battu.
Mené par Mao.
Mené par Mao, Xi Jinping, etc. Bon, la bande des quatre. Et on va lui reprocher de s'être mal débrouillé à Cuba. De la même façon, le responsable de la délégation soviétique va être maltraité également quand il rentre. Pourquoi ? Parce qu'à cause de la surenchère pendant la conférence vis-à-vis de la question de la lutte armée, la délégation soviétique va même finir par dire que l'Union soviétique va soutenir la guérilla. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout la ligne de coexistence pacifique que souhaite continuer continuer Brejnev et puis la direction soviétique. Mais évidemment, ça, je pense que on peut dire tout ce qu'on veut sur Fidel Castro, mais enfin, c'est un bon tacticien. Il est presque un aussi bon joueur d'échecs que Che Guevara. De ce point de vue-là, il essaye de jouer, si vous voulez, l'un contre l'autre. D'ailleurs, quand il attaque les Chinois en début de la conférence, immédiatement, les plus ennuyés sont les Soviétiques qui se disent « Oh là là, s'il attaque les Chinois, qu'est-ce qu'il va nous demander en échange ?»
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niblon.
Roger Faligaud, la stratégie consistant à multiplier les foyers insurrectionnels et à soutenir donc les luttes armées va mener le Tché à sa perte. Comment vous analysez cet échec aujourd'hui ?
Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qu'a été la stratégie de Che Guevara si on n'a pas en tête que dès 63-64, il a cette idée de cette conférence tricontinentale. J'insiste là-dessus. Alors après, il est clair qu'il y a un certain nombre de revers. Régis Debray en a parlé tout à l'heure. Tout de suite après la conférence, il va y avoir... D'une part, il y a des gens qui ne retournent pas dans leur pays, qui restent à l'entraînement. Et il y en a quand même des centaines et des centaines de différents pays d'Afrique et d'Amérique latine singulièrement. Ensuite, il va y avoir très rapidement quelqu'un comme Tulio Lima, par exemple, qui était aussi une autre grande figure de la tricontinentale du Guatemala, qui est considéré comme quelqu'un de vraiment très, très, très important. Il va tout de suite être tué, alors dans un accident de voiture dont on ne sait pas exactement, enfin disons à l'automne 66. Et il y a comme ça toute une série de dirigeants qui vont disparaître.
Et alors,
Le Che particulièrement, oui, évidemment, en Bolivie. Alors là, on voit bien, quand on interview aujourd'hui des gens qui sont les rescapés qui l'ont connu, etc., mais là encore, je parle sous le contrôle de Régis Debray, que le choix de la Bolivie n'est pas un choix uniquement pour faire la révolution en Bolivie, mais bien, là aussi, presque un projet bolivarien, en quelque sorte, sur l'ensemble du continent. Pourquoi avoir choisi un pays avec 5 frontières extérieures sur l'Amérique latine ?
Et pour votre part, Régis Debray, c'est en Bolivie que vous êtes arrêté.
Oui, le drame de la Bolivie, c'est pas tellement le choix du pays qu'il s'explique, comme vient de le dire Roger Faligaud, qu'il s'explique d'abord par la proximité de l'Argentine. C'est le choix à l'intérieur de la Bolivie d'une zone particulièrement ingrate qui n'avait pas été prévue pour cela et qui a été l'objet, je dirais, d'un choix de dernière minute qui n'a pas été heureux. Parce que... il y avait deux autres zones dans le nord du pays beaucoup plus propices que j'avais explorées, où la guérilla aurait eu un appui beaucoup plus fort de la part non seulement de paysans installés, mais de mineurs également. Bref, on va pas faire toute l'analyse de l'échec bolivien, mais il est certain que l'échec bolivien a marqué, disons, la fin de l'élan de la tricontinentale. Mais vous savez, il y a toujours des rebonds dans l'histoire. Vient ensuite le Nicaragua.
79, oui. La victoire révolutionnaire est peut-être la seule, d'ailleurs.
Oui, puis aussi les luttes au Salvador. Vient aussi la Colombie, puis va venir le Venezuela de Chavez, enfin. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu certainement une défaite politique qui a été transformée en victoire symbolique. C'est un peu toute l'histoire du Che, qui est défait, incontestablement, militairement et politiquement, mais comme une mèche lente qui va faire exploser toute une série de foyers qui vont peut-être devenir même des États, des régimes, voyez, en partie le Brésil ou l'Équateur ou le Venezuela ou la Bolivie d'aujourd'hui.
Roger Faligaud, votre bilan ?
Ben, précisément, on parlait de Che Guevara, mais par exemple, lorsqu'il est tué, Amilcar Cabral fait un petit discours pour ses guerrieros à Conakry et dit « on va appeler la nouvelle offensive que nous lançons, le Che n'est pas mort ». Et c'est la fameuse offensive militaire. Alors, il se trouve que c'est peut-être une coïncidence, mais c'est l'offensive militaire qui va déterminer la désagrégation de l'armée portugaise en Guinée-Bissau et par capillarité en Angola et en Mozambique, et la révolution des œillets au Portugal. On peut aussi dire, et moi j'ai tendance à la fin de la conclusion de ce livre de dire aussi que un certain nombre de gens ont été formés en quelque sorte du relationnel politique qu'ils ne connaissaient pas avant. Je prends un exemple, le chef de la délégation algérienne, on a beaucoup parlé d'Algérie, Lakhdar Brahimi, est aujourd'hui choisi pour, enfin évidemment c'est une tâche difficile, mais pour essayer de résoudre un peu le problème en Syrie. De la même façon, j'ai la délégation Sri Lanka. Il y a une dame qui est la responsable un peu du mouvement des droits civiques à Colombo. Et ben, elle était à la tricontinentale et aujourd'hui, elle essaye de rabibocher en quelque sorte tamouls et singalais au Sri Lanka.
Un dernier mot, Régis Debray, si vous le voulez bien. Dans votre livre « Loué soit nos seigneurs », vous écrivez en évoquant votre rencontre avec Ernesto Guevara à Alger. « Ce petit hasard a décidé de ma vie, je veux dire de l'image qu'en garderont quelques survivants. Chacun, espace oblige, n'a droit qu'à une seule. » Alors, quelle est la vôtre ?
Non, la tricontinentale dont on vient de parler a été une école des cadres. J'ai fait partie de ces centaines de cadres qui se sont politiquement et intellectuellement formés là, mais ma vie ne s'est pas arrêtée là. Et j'ai essayé, en France et ailleurs, de poursuivre, disons, la même inspiration, mais évidemment avec d'autres modes d'action, plus en adéquation avec le continent dans lequel je vis, qui est l'Europe.
Merci, Régis Debray. Loué soit nos seigneurs en éducation politique. C'est votre témoignage à lire en livre de poche, et ça tient dans la poche, aux éditions Folio. Et en attendant l'édition de poche, c'est aux éditions La Découverte que le livre Tricontinental de Roger Faligaud est publié. La Tricontinentale à Cuba, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec Philippine Veil, notre stagiaire, et les archives de RFI et de l'INA. N'oubliez pas de vous exprimer, marche.monde@rfi.fr, sur Facebook si vous le souhaitez, et puis podcaster cette émission, c'est la vôtre.